Amis de Radio Occitanie de la poésie, bonsoir les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Ce soir, je vais vous parler d'abord de deux revues. Vous savez que la poésie en France est quand même véhiculée, en tout cas toutes les innovations dans le domaine de la création poétique sont véhiculées par les revues. Et malheureusement, ces revues sont nombreuses et nous n'avons pas toujours le temps d'en parler comme il faudrait. Je vais ce soir m'attarder sur deux d'entre elles, la revue Diérèse, Poésie et Littérature, qui sort son numéro 71, numéro d'automne 2017, essentiellement consacré à Francesco Francini, à Jacques Ancet, à Pierre Desnaud et à Paul Bowles. Alors, c'est un très beau livre, puisque le volume de cette revue dépasse évidemment l'ensemble des revues de poésie que nous connaissons par ailleurs. C'est un véritable livre qui vaut 15 euros, mais pour lequel il y a bien sûr beaucoup de matière, beaucoup d'auteurs et surtout également. Pas que cela, mais ce qu'on appelle ce qui est appelé dans cette revue les bonnes feuilles, c'est-à-dire les notes de lecture qui sont excessivement précieuses pour tout amateur de poésie. Par exemple, sur ce numéro 71, il y a une note de lecture sur un des livres essentiels, je dis bien essentiels, de la poésie contemporaine du 21e siècle pour un auteur qui a marqué l'histoire de la poésie française. Cette note de lecture est de Hervé Martin et concerne Franck Venaille, qui a publié Requiem de guerre aux éditions Le Mercure de France. Alors, Franck Venaille, nous dit-on, vient de recevoir le prix Goncourt de la poésie 2017 pour l'ensemble de son œuvre. On a consacré, nous, il y a quelques semaines, une émission à Franck Venaille. Au soir de sa vie, l'auteur de Papiers d'identité paru en 1966, c'est Pierre-Jean Oswald, que nous avons tous connu, les gens de notre génération, c'est-à-dire les gens du baby-boom, poursuit ostensiblement sa voie en poursuivant une autobiographie de l'intime, marquée par l'enfance et la guerre d'Algérie. Son œuvre ne cesse d'en transcrire les blessures. Pour l'homme en guerre qu'il est, ce requiem de guerre est une veillée d'armes. Alors, ce livre me semble tellement essentiel que je vais demander à Franck Venaille, s'il veut bien, que l'on fasse une émission avec lui sur ce recueil, donc pour lequel vous aurez une note de lecture très développée dans ce numéro 71 de la revue Diérèse. Tout de même, un petit plus sur cette note de lecture. Ne serait-ce que ceci, il y a chez Franck Venaille, il y a donc toujours la présence du corps, ça c'est très important, je crois, chez lui, dans tous les recueils, cette présence du corps, les souffrances et les souvenirs, ces deux territoires d'enfance. Le poète livre bataille et l'homme avec lui en est tout ébahi. Le langage déploie toutes les énergies pour habiter les sèmes du vent. Ces tessitures innervées du corps liées à la parole de l'être, qu'est-ce que vivre, pourquoi mourir, écrire pourquoi, sont des questions essentielles. Pas de forme d'écriture privilégiée, mais des proses et des poèmes qui alternent. Ils s'agrègent selon à ce qui préside aux nécessités de l'être, criant son indignation et sa présence au monde. Et quel que soit le visage du poète, il marche seul au milieu de ses congénères. Puis Franck Venaille de conclure par ses vers, nous sommes comme les autres hommes, rien que des humains. Voilà, c'est une excellente note de lecture, dont de Hervé Martin, dans ce numéro de Diérèse. L'homme en guerre, c'est un livre d'entretien, et alors, il nous parle également, il y a un livre d'entretien et de texte qui est paru, qui s'appelle L'homme en guerre, et qui est aux éditions Parole d'Aule. Alors, c'est un entretien avec le poète Emmanuel Moz. Voilà. Alors dans ce numéro, bien sûr, on va. Alors il y a ces notes de lecture, je veux dire, qui sont très précieuses, très précieuses. Et on retrouve bien entendu que des voix amies là-dedans, en particulier Isabelle Lévesque, dont on a toujours vraiment plaisir à lire. Isabelle Lévesque, donc, qui contribue bien sûr par ses notes de lecture, mais également par les textes qu'elle donne dans cette revue. Isabelle Lévesque, Loin. Loin qui cogne et contre-temps, où va scier? Le cœur en sa faveur demeure, la craie évanouie. Un son se perd, le sort, pire victoire en voyelle, espère. Te retrouve et gagne le bord effronté, ressort vaillant. Lassitude accepte, si tu penches, je sors grandi. Le chemin s'ouvre, les consonnes assourdies trébuchent, elles nous gagnent. Chaque syllabe, au secours de perdre, grimpe et s'éloigne. Tu es en fleur ou presque déjà là, tu es partout. Isabelle Lévesque, ouvre et lis entre les lignes. Feuille, la vigne ou le ciel, lis. Rien ne saurait clore le geste, je vais vers toi qui, loin, toi, tes bras, le jour, me retiennent. Je n'oublie ni la mer, ni la roche. Je n'oublie pas le chemin rose et noir, encre de sèche, rose rocher, ronde ascension. Nous nous éloignerons. Qui regarderas-tu? Présage fou laissé vivant. Si ciel couvre le corps, nous deviendrons lumière à l'instant de fondre, immobiles et légers. La vie tranchée s'éloignera et lancera une étoile à ce nom. Prométhée tient la poussière en murmure singulier. Astre déjà brûlant, puisque chacun s'enfonce seul en ce ciel de minuit, juillet. Lit, sommeil, au risque du songe, nous écrivons l'histoire qui n'a pas commencé. Éternel aveu, fossoyé pour que sombre le passé. Il naît une île, un croissant bleu. Et puis, notre ami Éric Barbier, qui vient d'Occitanie, lui, région de Tarbes, Éric Barbier. Lèvres vives de l'aurore. La course de l'orage s'éveille, s'achève dans le verbiage des ronciers, les gardiens de l'arbre. En lui prennent force et verbe les multiples exils du souvenir. Marcher sous les dissipations d'un ciel désœuvré, se confondre avec l'arriéré de nos empreintes. Que savoir, qu'apprendre maintenant? Peut-être est-ce trop tard? Éric Barbier, Permanence des pluies. L'heure n'est plus à attendre une vérité qui s'élèverait difficilement depuis cette terre trop lourde, depuis cette nuit venue si tardivement qu'elle n'a pu s'éprendre de son obscurité. Elle n'a pas su lire les ombres, quitter sa trace. Condition pour supporter la mise à nu, le jour éteint par les langues dépeuplées, le dessaisissement, la perte soumise, l'acide regret, la décharnée pesanteur de ses ronciers encore. Permanence des pluies, que subsiste-t-il de la vie que l'on proclamait, une braise oubliée dans la cendre? L'éclaircie Peut-être, enfin. La lumière nouvelle, elle, un don de la plus ancienne naissance, pour mieux vivre la vérité de l'achèvement, la vertu originelle de l'abandon. La mémoire instaure dans cette clarté l'ivresse découragée de celui qui reste, de celui qui demeure sans partage. Fortune lumineuse et commune du dernier chant, le soir du merle et l'immensité du ciel que l'on devine juste. La ligne de l'horizon se croit l'ultime séparation. Elle précède un autre horizon. La nuit baise des lèvres de pluie, ortie solitaire, vigie masquée par la réunion des valérianes. Relief sans vertige d'une saison inconnue, clémence impassible, elle durcit dans le corps de l'homme de cette chair en qui habite la mémoire incessante. L'histoire changera de cours après avoir débordé les rives qui, hier encore, suffisaient à contenir l'existant. L'été raconte les amas de bois épars que l'on ramasse après les crues, ils seront cendres avant d'avoir été feu. Tu appelais nuit cette bouche en qui persistait un reste d'enfance, ce que tu ne pouvais plus lire sur les pages dispersées par les hasards de la pénombre. Tu appelais nuit le chemin qui s'achevait dans les éboulis de ce corps épuisé. Éric Barbier. Sécheresse embaumée de fleurs de romarin, graines éclatées sur la pierre brûlante, impertinence du crépuscule qui ne veut rien céder aux ténèbres. L'autre soir, ciel encombré de cris d'oiseaux, le voyage quotidien, une quête qui ne se veut de fin, de but. Je n'ai pas les mains assez pieuses pour répéter l'obsession de la femme entrevue, pour répéter sa nudité à peine distraite par un diadème de lavande, fleurs solitaires, elles aussi. L'orage à la fin de l'après-midi froisse la robe d'eau calme du ruisseau. L'été embrique sa dernière présence et mente, terre et mente, autrefois si dure aujourd'hui. L'orage célèbre l'éloignement, son fruit ténébreux que jamais le feu entièrement ne consume. Les portes se ferment sur cet homme, le premier de ceux que mon nom abrite. D'une branche de nuit, inscrire certaines dates sur le marbre, employer la langue vive des pierres. Le vent violente la tête douce des ifs, croire revêtir la vertu en épousant l'impossible lumière. Voilà, tout ceci donc se trouve dans ce numéro 71 de la revue Diérèse. Revue Diérèse, donc il y a, comme d'habitude, un éditorial signé de Daniel Martinez. L'abonnement à cette revue vous coûtera 45 euros. Il vous faut adresser un chèque à l'ordre de Daniel Martinez, 8 avenue Hoche, 77 370, Ozoir, La Ferrière. Ces renseignements seront sur notre site les-poètes.fr. Et puis, il y a bien sûr un site que je vous invite à voir de cette revue, c'est Diérèse et les deux Siciles, le tout se tenant. Diérèse et les deux, puis le tiré de Sicile avec un S, hautefort.com. Mais vous marquez Diérèse sur votre moteur de recherche et vous le trouverez. Alors je me réserve de lire la préface de l'éditorial de Daniel Martinez plus tard. Je vous indique un petit peu quand même le sommaire de cette revue. Toujours, alors, c'est une revue qui est extraordinairement bien faite. On voit qu'il y a là un travail absolument colossal. Alors, il y a dans cette revue d'abord l'éditorial de Daniel Martinez, et puis cette partie Poésie du Monde. Ça, c'est le domaine. Il y a un domaine italien, donc des poètes italiens, et un domaine américain, où il y aura Paul Bowles, qui est cher d'ailleurs à Daniel Martinez, hein, puisqu'il revient régulièrement sur cet auteur. Et puis, des poètes que nous connaissons, comme Pierre Desnaux, Jacqueline Saint-Jean, Jacques Ancé, Gérard Beauchollier, Daniel Abel, Isabelle Lévesque, Pascal Alejandra, etc. Et puis, il y a des cahiers avec Claude Albared, Daniel Martinez, André Sagne, Éric Barbier, que je viens de lire à l'instant. Des récits, Jacques Merx. Et puis, en hommage, il y a Tombeau des poètes par Étienne Ruot. Et enfin, les bonnes feuilles. Alors là, les bonnes feuilles, elles sont nombreuses, avec plusieurs auteurs, donc critiques de ces livres de poésie, comme Pierre Desnaux, Jean-François Séné, Max Allot, Hervé Martin, que j'ai cité tout à l'heure, Isabelle Lévesque, Jean-Louis Bernard, Éric Barbier, Lucien Vasselin, Bruno Sourdin, etc. Donc, tout ceci constitue un véritable livre de poésie et qui nous renseigne bien sur ce qu'est la poésie du XXIe siècle. Voilà. Et puis, je voudrais quand même passer de cette revue qui est un véritable livre à ce que fait Michel Cousem, qui est un peu... je trouve que c'est bien parce que là, on est là aux deux extrêmes. Donc un livre très charpenté, très construit, qui est un objet, un très bel objet, parce qu'il y a aussi des illustrations dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais qui sont toujours réussies. Et puis, alors, Michel Cousem qui continue imperturbablement donc, de faire apparaître ses numéros d'encre vive. Alors c'est toujours lui, donc 16 pages, formule A4, un recueil, avec une illustration bien sûr en couverture, mais c'est également très agréable parce que ça constitue, ces 16 pages constituent une unité, puisqu'on va lire un recueil. Et les signatures donc, de ces numéros sont toujours des signatures qui comptent dans l'expression de la poésie contemporaine. Hein. J'ai indiqué quels étaient, dans la semaine dernière, je crois, les derniers auteurs, hein, Ludmilla Potko-Sova, Jean-Marc Roth et puis Chantal d'Anjou. Je vais m'attarder un petit peu sur Chantal d'Anjou qui fait paraître là la concomitante dans le 466e numéro d'Encre Vive. Chantal d'Anjou qui est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Nous lui avons consacré une émission ici, bien sûr. Poésie, essais, prose, également critique littéraire. Ses derniers livres publiés sont en poésie, L'ancêtre sans visage, qui est mis en regard avec Elena Linderbor chez Collodion, ça a été publié l'année dernière, et Inutilité de voir venir chez Encre Vive en 2016 également, et puis en prose. Alors, Le journal de la main et Les jardins d'essai, ça c'est chez notre ami Daniel Cohen, aux éditions Horizon en 2017, donc Horizon sans H. La concomitante, publiée par Encre Vive, évoque le glissement des lieux, les uns devant les autres, leur rapprochement et leur heurte. Ce déplacement induit la diffraction du temps. Cette étrange expérience vient d'un voyage à l'île de Palawan et du retour, de la modification induite dans la matière même des lieux. Bon, alors, on est là en plein, il y a eu peu de temps, un colloque sur le poème et le lieu. J'avoue que ce recueil, eh bien, il répond également à cette interrogation. Il y a une appréhension des lieux, maintenant dans la poésie contemporaine, qui est une réalité dont il faut tenir compte, dont il faut la connaître, cette réalité, et voir ce qu'elle contient. Nous allons d'ailleurs, avec ce recueil de Chantal d'Anjou, On approche bien sûr de cette préoccupation, mais également dans les recueils dont je vais parler tout à l'heure, que ce soit Françoise Vignier avec Journal de Montalut ou Jacqueline Saint-Jean entre Sable et Neige, où il y a une anthologie un peu de son parcours, avec des entretiens aussi, des approches, mais le lieu, bien entendu, est important. Alors, revenons à la concomitante de Chantal d'Anjou. Je vais lire quelques extraits. La mer et l'orage courent l'un vers l'autre. Ni mer ni orage dorénavant. Pas plus, pas moins que mage, ergue ou lame. Convulsion de paysage. Grondement qui n'est pas tonnerre mais écho. Souvenir qui remonte à la surface. Lointain, feu et noir. Disproportion d'ici, d'ailleurs. Bord du réel et de la réminiscence qui se rejoignent et se cousent. Rivage qui se recouvre imparfaitement. Escarbille brune, jaune, rouge. Tout cela, bien sûr, n'arrive jamais. Ou si peu. Ou la nuit. Ou trop lentement. Imperceptible mouvement de rencontre. Parfois le contraire. D'une façon si soudaine qu'elle provoque la disparition. La collusion des rochers, des falaises, des vagues et des montagnes déclare le silence. Il faudra attendre, attendre avant d'autres suppositions, d'autres caps érigés, des arbres dansants, des jours brefs, des grilles de déblaiement. Il se peut alors que la concomitante se laisse entrevoir. Couleur d'arbres mauves du Luxembourg, branches fines montant ces bois de cerf, ces mâts du haut desquels voir le fond de la baie, ces tiges métalliques de fondation, la concomitante à cette allure de cage géante où tourne mer et orage. La mousson s'agite comme Polonia. L'averse approche. Le cliquetis accélère. Les places noient, les îles taisent, la mort craint. L'origine foudroie. Le ciel dégage le ciel. La mer suit, teintée de jardin. Chantal d'Anjou, nous en reparlerons, parce que nous devons de faire une nouvelle émission avec l'auteur Chantal d'Anjou, la concomitante. Je vous invite à lire. Vous pouvez vous procurer ce numéro en écrivant à Michel Cosem, 2 Allée des Allobroges, 31 770 à Colomiers. Le volume vaut 6,10 € et l'abonnement à la revue, donc vous avez 12 volumes, vous coûtera 34 €. Et puis alors, je ne fais que citer, parce que bien entendu, ça fera l'objet d'une émission plus ample. Je voudrais citer dans la collection Parcours, qui est une collection dirigée par Marie-Josée Christian, aux éditions Spéret de Gouez, donc des éditions bretonnes, je voudrais simplement citer, puisque nous y reviendrons en profondeur, ce livre de Jacqueline Saint-Jean, Entre sable et neige, anthologie, entretien et approche. Alors, la collection Parcours, qu'a créée Marie-Josée Christian, veut repérer et relier des voies actuellement invisibles et dispersées. Et cette collection présente donc des poètes ou des écrivains ayant un univers singulier, une œuvre forte et marquante, ancrée dans notre temps, qui puise aux sources vives de la poésie. La poésie de Jacqueline Saint-Jean, à la densité puissante, au style reconnaissable, éprouve la force fertile des mouvements pluriels du dehors et parvient à nous faire passer du sensuel au spirituel, tout entière comme un souffle du réel qui se réinvente dans l'imaginaire. Elle célèbre la mer, le vent, l'estran, les paysages bretons, le fragile et le fugitif, la marche de fond dans la traversée des espaces enneigés des Pyrénées, le vagabondage de la pensée sur les chemins de crête. Il y a un mot de Michel Cozem dans la quatrième de couverture de cette édition qui dit ceci: Jacqueline Saint-Jean fait partie de ces poètes que nulle compromission, nul mode ne peut détourner de son chemin. Jacqueline Saint-Jean est née en 1935 à Saint-Guelvin, en Bretagne. Elle vit actuellement près de Tarbes, dans les Pyrénées, pas loin donc de notre ami Éric Barbier. Elle est poète, critique, auteur jeunesse, lauréate du prix Xavier Graal pour l'ensemble de son œuvre. Elle a publié une trentaine d'ouvrages, en majorité des ouvrages de poésie. Elle est rédactrice de la revue Rivaginaire de 1980 à 2009. Elle est membre, pardon, de la rédaction d'Encre Vive et elle est critique dans les revues Spered Ouez, L'Esprit Sauvage et Sémaphore, et sur la revue par Internet qu'anime notre ami le Toulousain Michel Baglin, la revue Texture. Alors, parmi ses livres, on va quand même citer le prix Max-Paul Fouché avec Chemin de bord, qui avait été publié, puisque c'était le prix Max-Paul Fouché, par le Castor Astral. Entre Lune et Loup, le prix Poésie Jeunesse, c'est Hachette, c'est un livre de poche. Hein. L'Enfant Sphinx, dans la collection Fondament d'Henri Hurtebise. Lumière de neige, de Sacamo. Gel et les mots, dont nous avions parlé lors de l'émission que nous avions réalisée avec elle ici, et ce qui a été publié, Gel et les mots, chez Raphaël de Surtis, Dans le souffle du rivage, Tertium Édition, récemment, donc Solstice du silence, aux éditions Alcyone, dont je vais parler maintenant. Alors, Jacqueline Saint-Jean, Entre sable et neige, c'est un livre qui vous coûtera 13 euros, ce qui est très bon marché par rapport au vraiment très beau livre que cela représente. C'est un livre quand même qui a 130 pages. Voilà, donc nous aurons le plaisir de parler un peu mieux donc de ce livre en particulier. Nous essaierons d'avoir un entretien avec elle, soit qu'elle vienne, soit évidemment je lirai ce qui est contenu dans ce livre. Juste un extrait, L'Enfant Sphinx, dont on parlait tout à l'heure. L'enfant brûlant s'enfouit sous les grandes robes d'ombre, pavot fugace sur le noir des paupières. Il touche la chair profonde, il cherche l'infini, un parfum qui ranime les morts. Dans le sommeil se lève un noyer de lavoir, emmêlé de vieux linge. La nuit remue les boues. Derrière le silence, entre guinguette et guerre, les baraques tremblent. Elle ne sait comment calmer les images. Le soir, après l'épicerie des couleurs, elle serre les paupières quand elle passe pour ne plus le voir, l'abattoir. Elle sait qu'au fond du noir, indélébile, pendent les rouges. Plus tard, elle court au long labour. Bottes lourdes collées aux mottes. Elle court vers ce puits de mystère où parlent les morts. Un soldat vert, hagard, la regarde du fond de la terreur. Puis elle court à l'envers, vers la ruche d'or où la nuit se réchauffe. Jacqueline Saint-Jean, Entre sable et neige, anthologie, entretien et approche, aux éditions Spered Gouez. Et je vais terminer donc sur un livre paru aux éditions Alcyone, dans la collection Surya, animée par Sylvaine Arabeau. Très belle collection. Je vais parler par exemple de Léon Bralda, il y a peu de temps, avec La Voix levée. Très beau livre également, très bien illustré. Donc, je vous invite à vous reporter sur le site de cette émission, de cette édition, pardon, et de ne pas hésiter à commander vraiment ces livres. Françoise Vignier est connue également parce que c'est une passionnée de poésie, et elle envoie à qui le veut bien des poèmes, là comme ça, d'une façon passionnée et amicale, fraternelle. Françoise Vignier, est né en 1949 dans la Loire, à Saint-Étienne. Elle est professeure de lettres. Elle a aimé exercer son métier, dit-elle, tout en voyageant en Europe et en Extrême-Orient. Le commerce des poètes l'a accompagnée tout au long de sa vie. Retirée dans le Gers, on va le voir par la description des paysages, à l'écart du monde, entre guillemets, elle a fondé en janvier 2011, vous prendrez bien un poème dont je parlais tout à l'heure, hein, vous pouvez vous inscrire, je vous donnerai son adresse mail, elle vous enverra ce vous voudrez bien un poème, c'est une feuille poétique qui s'adresse à près d'une centaine de lecteurs, poursuivant ainsi le partage. C'est là qu'elle a composé les proses de Journal de Montalut, inspirées par la présence de la Grande Campagne, recueil nominé sous une forme sensiblement différente lors du prix Troubadours, en 2014 et décerné par la revue Friche de Jean-Pierre Thuya. Ce recueil qui a inspiré à Claudine Gou 12 aquarelles, des extraits ont été accueillis dans les revues Arpa, Décharge, Friche, Les Cahiers de la rue Ventura et Poésie Première. Elle a été, Françoise Vignier, de 1914 à 1917, membre du comité de rédaction de la revue Les Cahiers de la rue Ventura, revue créée et dirigée par Claude Caillou. À partir de deux collages de Ghislaine Léjard, elle a participé à un livre d'artiste, voyage autour d'un collage et à une riche enveloppe, entre guillemets. Alors, à peine audible, un bruissement emplit l'espace et lui redonne sa profondeur de grand château à ciel ouvert. Un souffle doux meuble les airs d'une immobile pulsation. Une voici parmi la pluie, haute en sa demeure, en son silence qui bruit. Menu en sa fraîcheur, hôte d'un jour et bouche bée de sa présence immense, juillet. Voilà, c'était un extrait donc de ce livre, Journal de Montalut. Eh bien, je crois que le mieux. Alors, Journal de Montalut, il fait référence à ces paysages que nous connaissons bien, nous, bien sûr, ici, les Occitans, ce paysage vallonné du bas Armagnac. Et dit-elle, ce journal de Montalut est né parmi les paysages du bas Armagnac pour le silence et le partage. Voilà. Pour le silence et le partage. Alors on va trouver dans cette poésie, entre parenthèses, je fais une petite digression pour dire que ces aquarelles de Claudine Gousse sont également magnifiques. Et il y en a une qui est reproduite là-dedans, dans ce livre. Donc on va retrouver là cette préoccupation du lieu. Et cette poésie de la nature, qui est très vivace en définitive, dans notre Occitanie. Nous sommes les poètes de la modernité, certes, donc les poètes fatalement de la ville, mais il y a, et je crois que depuis l'école de Rochefort, on est revenu sur cette imprégnation de la nature, du paysage, du lieu, peut-être aussi de la fraternité de village qui pourrait disparaître. Hein. Et ces poètes-là, Françoise Vignier, en définitive, s'inscrit dans toute cette pléiade hein, de poètes, Michel Cousin, Gilles Lade, Monique Saint-Julien, par exemple, ont cette préoccupation, même Jacqueline Saint-Jean, avec ses paysages bretons, cette préoccupation de trouver dans le paysage son harmonie, mais surtout le paysage vous conduit à dépasser votre pensée, à aller vers quelque chose qui relève de l'infini ou tout au moins de l'universel. Alors, il y a un avant-dire dans ce livre, Journal de Montalut de Françoise Vignier, qui dit ceci: Le poème surgit lorsque le temps s'arrête, lorsque l'instant n'est plus fraction de la durée, lorsque, en suspens, il s'élargit et nous fait place. Dès lors, nous voici pris en la beauté du monde, dépouillés de nous-mêmes, comblés d'un rien furtif, et l'espace devient chambre haute de l'être. Je crois que là, tout ce que je peux dire sur les caractéristiques de ces poètes, là, ce sont les poètes du paysage, de la nature, poètes des lieux, eh bien, en quelques lignes, Françoise Vigné l'a cerné et en définitive l'a condensé, mais tout y est. Donc le poème surgit lorsque le temps s'arrête et ce temps arrêté, donc ce n'est pas une fraction de durée, c'est un instantané qui va devenir, qui va s'amplifier, qui va s'élargir et qui va faire place au poème. Poème qui permet évidemment à l'être de s'étendre. Le pays d'ici. Ici, la nuit est sombre, parfumée, et la petite route, parfois inondée de lune pour une balade improvisée, la maison posée au bord de la voie lactée. Ici, l'on écoute le silence. Bruissement de ce jet d'eau végétal qui le tremble, recoulement des tourterelles turques, froissement d'ailes dans les feuilles touffues, appel plaintif de la hulotte, friselis de maïs séché sous le vent. Ici, la fenêtre ouvre sur un coteau brodé de vignes hautes, et sur le méandre de la départementale qui s'étire en pente douce vers le clocher. Ici, les petits chemins mal goudronnés portent en leur centre une ligne herbue, parfois hachée, parfois ornée de touffes vertes, et sur leur côté ensoleillé, un double feston tout noir, l'ombre des fils du téléphone. Ici, au détour d'un virage grand ouvert sur l'espace, c'est l'horizon à nu qui soudain vous saisit et le cœur qui bondit. Août. Françoise Vigné. Et nous avons ouvert les yeux sur le silence lumineux de la campagne déjà blanchie de gel et de givre. Seuls s'élèvent ces bouquets d'or brunis à peine que sont les chênes. Comme en soi l'on ouvre, ébloui, la porte sur un palais ignoré, l'être à l'espace, somptueux de vide et de transparence. Décembre. Rond et roux dans la lumière, le bois dévale la pente. Au loin, les crêtes. Leur fin tracée, ligne picturale autant que musicale, ne barre pas l'horizon, il l'ouvre. Et le cœur s'y engouffre, léger cristal sur les montagnes. Vivre est à vivre. Janvier. Belle campagne, on la dirait dormante sous sa gelée blanche au matin, mais elle respire, toute resserrée dans le soleil du silence. La contempler, s'échapper de son propre corps, se glisser dans son corps d'espace, s'étendre à la transparence. Janvier. Les grands bois sont laiteux dans le matin d'hiver et sous le ciel si clair, en suspens un nuage gris-bleu. Bel appel silencieux pour un ici nourri des dieux. Février. Nous sortons pour planter le péché. Au lieu du grand silence d'ici et de ces bruits de vent, une clameur mi-articulée, mi-roucoulée, à voix si aiguë que féminine, comme en une langue étrangère. Les grues cendrées sont de retour. Et le regard s'élève, scrute le bleu et les nuages blancs, s'égare avant de contempler enfin, tout au fond du ciel, les très hauts vols mouvants, innombrables variantes de V non enchevêtrées qui ne cessent de se recomposer savamment. Et l'esprit se déroute. Fasciné par ces rythmes millénaires des bêtes et des lunes qui font de nous des humains si petits, soudains, parmi l'immensité des ciels. Mars. Françoise Vigné, Journal de Montalu. Un grand vent de soleil et de feuilles naissantes promet entre les frênes, la vie légère. La lumière danse et éclabousse. La lumière nous invite au bal. Avril. À travers l'or bleu, à travers l'or bleu des airs, la ruée d'une mésange sur le bleu vert des lichens emplit l'espace d'un froissement subit, minuscule visitation. Et l'instant se précipite, échappée belle dans la caresse du silence, à la poursuite du petit être. Juin. À peine audible, un bruissement emplit l'espace et lui redonne sa profondeur de grand château à ciel ouvert. Un souffle doux meuble les airs d'une immobile pulsation. Et nous voici parmi la pluie. Hôte, en sa demeure, en son silence, qui bruit menu en sa fraîcheur. Hôte, d'un jour et bouche bée, en sa présence immense. Juillet. Après la pluie, vient la lumière, en grand silence, et ce fut un saisissement. Chaque seconde inaugurale. L'air est tactile où nous allons, mobile et droit, dans ce trait dru de la lumière qui ne caresse, mais s'incorpore à notre corps, et l'esprit nu dans la lumière, lustrale. Juillet. Alors un texte qui est dédié au poète Gaston Puel, écrit-elle. Donc, notre ami Gaston Puel. Les frondaisons bouchent à peine. Pardon, excusez-moi. L'émotion, Gaston Puel. Les frondaisons bougent à peine parmi la masse des airs bleus. Plus rien ne bruit dans la lumière. La terre repose en ses grillons. Tendresse ancienne des humus. Seul volait un grand oiseau blanc. En cet instant, tous les silences comme tissés dedans l'espace, le corps, le cœur, à l'unisson. Juin. Matin de brume et de vent doux, ce bruissement parmi les feuilles où ne cessent les oiseaux. Et sur la route des rubans lumineux de soleil cachés, léger brouillard, voile diaphane, n'emprisonne pas le tourment, qui ne se dissout dans les airs. Joël. Ici, les matins d'été sont embrumés. Longtemps, une lueur voilée tient lieu de ciel, de soleil, d'horizon. Tardivement vient la lumière, dans un silence de percale où seuls trillent les oiseaux. Se déplie la page du jour enluminée de fraîches attentes, celle qui donne aux heures leur épaisseur, par en dessous. Juillet. Frêne aux cinq branches, évasé d'un tronc puissant vers les cinq orients en lyre de chaque jour, donne-moi ton élan. Août. Nuit. Fraîcheur du silence. L'esprit vacant de ses fantômes. Posé le baluchon sur le bord du fossé et s'en aller légère, légère, comme le chat vigile et vagabond. Août. Voilà. Donc, vous avez un aperçu de ce très beau livre, Journal de Montalu, de Françoise Vignier. Donc, vous avez vu le paysage, mais ce paysage qui permet effectivement un petit peu de ce que disait toujours Amu, c'est-à-dire immobiliser l'espace et le guérir de sa maladie qui est le temps, c'est-à-dire que dans ces instantanés, on a l'impression d'avoir arrêté quelque chose pour arriver à une extension de l'être, de soi-même. Françoise Vignier, Journal de Montalu, aux éditions Alcyone, je pense que la tête de, je crois que c'est 17 euros, excusez-moi, je n'ai pas le prix sous les yeux. Voilà, donc je vous invite également à vous rendre sur le site des éditions Alcyone, car tous les ouvrages parus sont des ouvrages, par exemple Léon Bralda, La Voix élevée, hein, qui est un très bel ouvrage aussi, très bien illustré, très bien fait, avec des textes d'une grande puissance. Voilà, ainsi s'achève notre émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.